Maintenant, nous entretenir sur un personnage biblique. Ce personnage est à la fois connu, mais aussi méconnu. Sous un aspect, il est présenté comme un héros, un modèle ou un exemple de loyauté, de sincérité et de fidélité en amitié. Il est aussi présenté comme quelqu'un ayant une clairvoyance spirituelle hors du commun. Mais en étudiant bien la vie de cette personne, on se rend compte que c'est quelqu'un au cœur partagé. Quelqu'un dont la vie peut se résumer en ces termes, indécision. Quelqu'un qui le plus souvent savait ce qu'il devait faire, mais ne les faisait pas. Image de plusieurs parmi nous. Aujourd'hui, quand on regarde la ville de Kinshasa, à travers les rues, il y a église à gauche, assemblée à droite, groupe de prière, des masses et des masses. Vous rentrez dans un taxi, Jésus est mon sauveur. Mais combien vivent ce qu'ils prêchent? Combien vivent cette parole qu'ils tiennent sous les bras? Nous connaissons beaucoup comme cette personne, mais nous pratiquons peu. Cette personne savait ce qu'il devait faire, mais ne l'a pas toujours fait. Ou quelquefois quand il l'a fait, ce n'était pas toujours de la manière qu'il fallait. Et vers la fin de sa vie, une fin tragique. Et cette fin n'a fait qu'être le couronnement parfait de la qualité de vie qu'il a menée. Cette personne est passée juste à côté de l'essentiel. Comme disait Jésus à un homme, tu n'es pas loin du royaume. Certains pourront trouver là un sujet de joie. Mais être tout près, ce n'est pas être dedans. Cette personne, elle aurait pu connaître une autre destinée. Mais ses choix ont dicté son devenir. Vos choix, mes choix, nos choix dictent nos devenirs. Et j'aimerais ce matin les crier de tout mon cœur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car un jour, il se peut qu'il soit trop tard. J'aimerais ce matin vous parler au sujet de Jonathan. Nous allons lire ensemble dans la Bible s'il y a un thème que l'on peut donner à cette... À ce message, c'est Jonathan ou le cœur partagé. 1 Samuel chapitre 31, nous lirons du 8e au 13e verset. Puis nous lirons après 1 Samuel 23, 15 à 17. Et nous terminerons par Apocalypse 3, 15 à 16. 1 Samuel 31, 8 à 13. 1 Samuel 23, 15 à 17. Et puis Apocalypse 3, 15 à 16. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts et ils trouvèrent Saül et ses trois fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils coupèrent la tête de Saül et enlevèrent ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tous les pays des Philistins, dans la maison de leurs idoles et parmi le peuple. Ils mirent les armes de Saül dans la maison des Astarté. Et ils attachèrent son cadavre sur le mur de Beth-Shan. Lorsque les habitants de Jabès en Galade apprirent comment les Philistins avaient traité Saül, tous les vaillants hommes s'élevèrent. Et après avoir marché toute la nuit, ils arrachèrent des murs de Beth-Shan les cadavres de Saül et ceux de ses fils. Puis ils revinrent à Jabès où ils les brûlèrent. Ils prirent leurs os et les enterrèrent sous les tamaris à Jabès, ils jeûnèrent 7 jours. 1 Samuel 23, 15 à 17. David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, s'éteint au désert des Ziph dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, s'éleva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, « Ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël et moi, je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. » Terminons avec Apocalypse chapitre 3, 15 à 16. Et c'est Jésus-Christ qui parle à l'église de Laodicée. Quelle déclaration. Je connais tes œuvres. Il nous connaît, quelle que soit l'apparence extérieure. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Sans nous, tu peux parler à ton peuple par ton esprit. Et pourtant, ce matin, tu permets que nous nous tenions devant ton peuple. Si ton peuple peut tirer quelques bénédictions de ce moment, Seigneur, c'est dans la mesure où toi, tu vas te saisir de nos lèvres, de notre cœur et de tout notre être. Je t'en prie, fais-le. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous avons lu ensemble 1 Samuel 31, 8 à 13. Spectacle de désolation. C'est un champ de bataille. Et sur ce champ de bataille, il y a une odeur de putréfaction. Des cadavres par centaines, par milliers gisent par terre. Les uns éventrés, les intestins dehors. Et les mouches qui déjà commencent à voltiger. Des cadavres au visage hagard et aux bouches ouvertes. Signe peut-être d'une douleur qui a précédé la mort. Des chevaux aussi par dizaines, par centaines, par terre. La bataille était rude. Des chars aux pneus partis. Il y en avait par dizaines, par centaines. Et au beau milieu de ces cadavres, il y a quatre cadavres qui, bien que faisant partie du camp israélite, ils avaient un aspect particulier. Ils étaient revêtus d'habits royaux. Là par terre, Saül, habillé dans toute sa majesté, il est mort. Et de quelle manière? La Bible dit qu'ils avaient appris que les Philistins s'avançaient contre eux. Et Samuel, le prophète, était mort. Et Saül se disait, « Oh, si seulement Samuel pouvait encore être là. » Mais il s'est rappelé de jugements sévères, de paroles sans détour de cet homme de Dieu. Combien nous en avons encore besoin aujourd'hui? Hallelujah. De ce jour où, alors qu'il tenait l'habit de Samuel, ses habits se sont déchirés. Et Samuel lui a dit de la même manière, mes vêtements se sont déchirés, Dieu t'a retiré le royaume en les regardant en face. Hallelujah. Il a regardé dans les yeux. Saül était dans la désolation. La Bible dit, il est allé, il a crié vers l'Éternel. Oh tristesse, il est dit. L'Éternel ne lui répondit pas. Il consulta l'Urim, les prophètes. Dieu était silencieux. Combien de fois dans notre vie, nous voulons recevoir des choses de Dieu, mais alors que nous ne remplissons pas les conditions. Seigneur, donne-moi. Seigneur, bénis-moi. Dieu sait être silencieux. Saül était dans le désarroi. Il ne savait que faire, il est allé même consulter une magicienne. Il s'est dit, si Dieu ne répond pas, trouvons un autre moyen. Et alors qu'il passait tout ce temps de tourment, à ses côtés, il y avait un jeune homme, plein de qualités, mais un jeune homme amorphe, Jonathan. Probablement, il a cheminé avec lui. Peut-être même, Jonathan était avec Saül, là dans la maison de cette magicienne. Et plus tard, les Philistins se sont tenus à côté de Sunen et Israël à côté de la montagne de Gilboa. Et la bataille était rude. Alors qu'Israël battait en retraite, Saül a compris que sa fin approchait. Il ne voulait pas qu'un Philistin puisse les tuer. Il a dit à son porteur d'armes, « Prends ton épée, tue-moi !» Quelle triste fin pour cette personne de qui la Bible dit « L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu deviendras un autre homme. » Bien-aimé, la Bible dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Plusieurs héros, plusieurs qui ont eu à faire des exploits pour le Seigneur, passeront l'éternité, peut-être loin de Dieu. Alors qu'il voyait son porteur d'armes hésiter, il a pris lui-même l'épée, paf, il s'est donné la mort. Et les Philistins sont venus, ils ont achevé ses fils, Jonathan, Abinadab et le Malkishua. Là, à côté de Saül, gisait aussi le corps de Jonathan. Plus tard, ils ont amené leur atrocité plus loin, ils ont même coupé la tête de Saül. Et ils ont pendu le corps de Saül au mur ainsi que de ses quatre fils. Bien-aimés, j'aimerais nous dire ce matin, nous passerons l'éternité à côté de celui que nous avons servi. Alléluia. J'aurais voulu être là, lui dire, Jonathan, qu'est-ce que ton corps fait ici? Et pourtant, un jour, il avait dit à David, tu seras roi, et je serai ton second. Mais Jonathan, qu'est-ce que fait ton corps ici? 16 heures. Un jour, Jonathan avait fait la connaissance de David après la victoire sur Goliath et les Philistins. Et déjà là, sous le champ de bataille, Jonathan avait observé et s'était rendu compte que ce jeune homme blanc, il était différent. Que dis-je, il était spécial. Il avait quelque chose que lui n'avait pas. Il a vu sa foi en Dieu. Il a vu sa fermeté. Il a vu sa constance, même au plus fort du combat. Quel exemple sommes-nous pour les autres? Paul écrivant à Timothée lui dira, sois un modèle, alléluia, en foi, en parole, et ainsi de suite. Quand ceux qui nous entourent, ceux avec qui nous travaillons, ceux de notre famille, ceux de notre quartier nous regardent, qu'est-ce qu'ils se disent? Et David a été un exemple pour Jonathan. 1 Samuel 18, 1 à 4 dit, dès cet instant, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Alléluia. David était... Jonathan était riche. Prince, fils d'un roi. Mais David était fils d'un petit berger. L'un avait les richesses matérielles. L'autre avait les richesses spirituelles. Et ce que David avait, Jonathan ne l'avait pas. Jonathan dit, je tourne. Mais j'aimerais avoir ce que tu as. Son âme s'attacha à l'âme de David. Jonathan l'aima comme son âme. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Et il est tellement attiré par ce que ce jeune homme a. La Bible dit qu'il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et lui donna même ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Alléluia. Quel exemple de loyauté. Quel exemple de sincérité. Jonathan, il est aussi un visionnaire. Il voit loin et il voit bien. Derrière ce jeune homme blanc et fragile, il a discerné que Dieu était avec ce jeune homme. Plus tard, il a appris que le prophète Samuel avait oint ce jeune homme. Et bien qu'il était le fils de Saül, au fond de lui, c'était une certitude. Il régnera à la place de mon père. Et il voyait loin. Jonathan savait, plus le temps passait, de quel côté se trouve Dieu, se trouvait Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu lui-même, quelquefois, il s'élève et il démontre avec qui il est. Alléluia. D'un côté, il y avait un homme fort, puissant, avec une armée, une grande quantité d'armes. Saül. Et de l'autre côté, un jeune homme fragile qu'on peut écraser comme un cancrelat. Mais Dieu n'était pas du côté de l'homme fort. Dieu était du côté de la faiblesse. Alléluia. La Bible dira plus tard, plusieurs centaines de personnes ont rejoint David dans la caverne. Apparemment, les signaux étaient brouillés. Mais seuls ceux qui étaient capables d'une perception spirituelle pouvaient voir de quel côté se trouvait Dieu. Jonathan l'a su. Mais voilà, Jonathan avait un dilemme. Il était fils de Saül. Dans son corps coulait le sang de Saül. Il aimait son père et ne pouvait faire autrement. Il n'était pas toujours d'accord avec lui, mais c'était son père. Combien de fois, mettant sa vie à danger, il allait rejoindre David dans son maquis, si vous me permettez les termes. Il allait rapporter à David tout ce que son père voulait faire contre sa personne. Quelle loyauté, quelle fidélité. Jonathan a su voir. Mais voir, c'est une chose. Comprendre, c'est une chose. Obéir, c'en est une autre. Jonathan intègre en amitié, loyal et véridique dans sa relation avec David. Son père lui dit un jour, tu es insensé. Ne sais-tu pas que tant que le fils d'Isaïe, c'est-à-dire David, sera vivant, tu ne seras jamais roi. C'est-à-dire que c'est ta succession, c'est ma succession qui est mise en danger. S'il est vivant, Jonathan, tu ne seras jamais roi. Mais Jonathan connaissait les choix de Dieu. Voilà pourquoi il a dit à David, tu régneras sur Israël. Et moi, je serai au second roi. Ce qui intéressait Jonathan, ce n'était pas la royauté. Ce qui l'intéressait, c'était la volonté de Dieu. Aurais-je pu agir comme Jonathan? Peut-être non. Il savait de droit, c'était à lui la succession. Mais il a connu la volonté de Dieu. Jonathan, un homme de foi, plein de courage. Quand nous lisons 1 Samuel 14, nous voyons comment un jour, alors que tout Israël était laxiste et ne savait que faire, et que Saül même était sous un gêné, sous un arbre, la Bible dit, il a dit à son porteur d'armes, allons-y, attaquons les camps ennemis. Dieu, il peut sauver au travers d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Alléluia. Un homme de foi, Jonathan. Les voilà à l'abordage. Il est parti, ils ont tué une vingtaine de personnes. Et puis, plus tard, toute l'armée est venue. Que des qualités dans la vie de ces jeunes hommes. Mais Jonathan avait une faiblesse. Une petite, mais une faiblesse qui a été fatale. L'indécision. Jonathan, cœur partagé. Il connaissait la volonté de Dieu, mais n'était pas toujours prêt à les mettre en pratique totalement. Il connaissait de quel côté se trouvait Dieu, mais il ne savait comment faire. Il était partagé entre le cœur et la raison. Le cœur lui disait, papa Saül, mais la raison et la révélation de Dieu lui disaient, David. Oh, je comprends pourquoi Élie dira au peuple, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez-y aussi. Un pasteur disait il y a quelques années ici, il y a des hommes qui, des jours, des mois, des années, ils viennent à l'église. Gloire à Dieu. Convertissez-vous, ils ne se convertissent pas. Bon, mais restez alors à la maison, ils ne veulent pas rester. Mais qu'est-ce que vous venez chercher ici? Dimanche après dimanche, très tôt le matin, 7 heures, je vais à la borne. Je prie à la borne. Convertis-toi, il ne veut pas. Bon, alors reste à la maison. Car il est triste que d'avoir une carte de membre, de venir 100 ans à la borne et de passer un jour toute l'éternité en enfer. Mais Dieu vous aime. Venez toujours, qui sait, un jour vous tomberez dans ses filets. Alléluia. Et j'aimerais vous dire, Dieu a des très bons appâts. Parmi notre personnel ici à l'église, il y a un qui s'occupe du son. Un beau témoignage. Il dit autrefois, il participait au concours des bières. Donc, c'est-à-dire, il se retrouvait à 4 ou à 5, on met des casiers. Qui peut consommer plus de bouteilles? Alors, ce jour-là, il y a plusieurs années, 8 ans, il allait à son concours. Alors, juste avant de prendre les taxis là, il a vu une jeune fille, une très belle jeune fille. Elle a dit, j'aimerais tenter ma chance. Alors il a commencé à déranger cette jeune fille jusqu'à la porte. La fille lui a dit, mais viens avec moi à l'église. Dieu a des appâts, je vous assure. Il a dit, il est venu, il s'est assis quelque part. Le pasteur Vernon a prêché, oh quel message. À la fin, cette jeune fille est devenue sa sœur dans le Seigneur. Alléluia. Et aujourd'hui, il est là. Oh, je n'aimerais même pas les regarder. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Dieu sait. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jonathan a un défi. La raison lui disait David, mais le cœur lui disait Saül. Il savait que Dieu était avec David et c'est David qui allait régner. Mais il savait aussi abandonner Saül. Qu'est-ce que les gens vont dire ou penser? Oh, ce que les gens vont dire ou penser. Combien cela nous arrête dans la voie de l'obéissance à Dieu? L'homme est traitera. De quelqu'un qui est sans personnalité. Probablement plusieurs fois, Jonathan a dû passer des nuits d'insomnie. Bien-aimé, j'aimerais nous dire ce matin, la route qui mène à la perdition est parfois parsemée de bonnes intentions. Et il y a toujours cette progression. D'abord, l'on sait ce que l'on doit faire. Mais si l'on ne veut pas le faire, un jour l'on ne pourra plus. C'est d'abord, on ne veut pas. Et puis un jour, on ne peut plus. Je vous en supplie. Réagissez. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez ce matin. Réagissez tant qu'il est temps. Alléluia. Au départ, ce sont des hésitations. Je veux, je dois. Mais. Et puis un jour, on ne peut plus. Peut-être qu'à plusieurs reprises, Jonathan s'était décidé. Il avait dit, je dois, je veux. Mais il s'est limité à dire. Entre dire, je veux abandonner et abandonner, quelquefois l'écart est grand. Je me souviens d'un papa. Il prenait l'alcool indigène, communément répandu dans nos quartiers, à la cité. Il était un religieux. Et il a attrapé une cirrhose de foie. Le médecin lui a dit, le jour où tu toucheras au prochain verre, ça sera la fin. Il savait, mais il ne pouvait plus. Je me rappelle toujours de cet homme. Il a résisté une semaine, deux semaines. Au début de la troisième semaine, j'étais avec ses enfants, on est venu nous dire, allez voir, papa X est tombé au coin de la rue. On l'a retrouvé mort avec son verre d'alcool indigène. Il voulait, mais il ne pouvait plus. Bien-aimé, personne ne peut gérer les péchés et dire j'irai de là jusqu'à là et je m'arrêterai. Personne, depuis que le monde est monde, n'a jamais maîtrisé le péché. C'est pour cela que la Bible dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous ne savons pas toujours jusqu'où peut nous amener un péché. Romains 7, le verset 15, puis le verset 18 à 24 nous dit, et c'est l'apôtre Paul qui parle de son expérience personnelle. Expérience de doute, expérience de faiblesse, où il se rend compte qu'il a la volonté, mais non la capacité. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Quelle déclaration! Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et j'aime beaucoup le dernier cri. Combien j'aimerais que plusieurs cœurs le poussent ce matin. Misérable que je suis! Qui me délivrera de ce corps de mort? Alléluia! Oh, quand un homme arrive à ce point qu'il crie, Dieu entend et vient exaucer. Est-ce que Jonathan a eu à pousser ce cri? Je ne sais pas. J'essaie de m'imaginer plusieurs tournures. Peut-être Jonathan aurait bien voulu naître pauvre citoyen. Il aurait voulu être un pauvre berger. Il aurait voulu être toute personne sauf fils de Saül. Alors son choix aurait été facile. Il aurait voulu faire comme des centaines, rejoindre David dans son maquis. Lui, il ne voulait pas au départ. Et puis plus tard, il ne pouvait plus. Peut-être même qu'il doutait, se disait, Saül est tellement fort. Et s'il arrivait que Saül tuait David? J'aurais fait la plus mauvaise affaire. Voyons voir jusqu'où ça peut aller. Jonathan, il passait des grandes assurances aux grands doutes. D'un côté, il voyait David qui avait l'onction et la promesse de Dieu. Mais il était faible et sans force. D'un autre côté, il voyait et connaissait les pouvoirs de Saül, son père. Il voulait choisir, mais il hésitait. Des nuits d'insomnie, probablement. Des nuits durant lesquelles il pleurait et se maudissait d'être né fils de Saül. J'aimerais nous dire, plusieurs personnes pleurent à l'église. Mais ce qui compte, ce ne sont pas les larmes. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons après avoir pleuré. Alléluia. Plusieurs pleurent, oh Seigneur, j'abandonne, je laisse, oui. Mais après avoir pleuré, il reste le même. Remarquez une chose, à la fin de la vie de Jésus-Christ, il y a eu deux personnes qui ont pleuré. Mais après, ils ont agi différemment. La Bible dit, quand les coqs a chanté trois fois, après que Pierre ait renié le Seigneur trois fois, il est dit, il a pleuré. Mais gloire à Dieu, il est revenu avec les autres disciples. Il attendait le maître. Et le maître l'a restauré. Alléluia. Un autre aussi avait pleuré, Judas. Il est allé pleurer, il a pris les 30 pièces d'argent. Il a jeté au Dieu, oh, j'ai livré le sang innocent. Il est allé se pendre, perdu pour l'éternité. Pleurer, c'est bien, mais que faites-vous après les larmes? C'est ça qui compte. Être en dehors de la volonté de Dieu, c'est la chose la plus triste. Vivre en dehors de la volonté de Dieu, c'est la chose la plus épouvantable qu'un homme puisse connaître. L'on peut se donner l'apparence extérieure d'une certaine quiétude. On peut rire ou montrer comme si tout va bien. Mais au fond de soi, on sait qu'on a des comptes à régler avec Dieu. Et la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais j'aimerais encore dire, si Dieu est contre nous, qui sera notre avocat? Quand Dieu classe ton dossier, Dieu connaît ceux qui peut-être cette nuit ont pleuré, qui savent qu'ils doivent prendre des décisions. Alors, les gens aiment bien quelquefois qu'on nomme tel ou tel autre péché. Quand vous vivez dans les péchés, vous les savez. Alléluia. Je suis dépassé par ces femmes qui viennent vous expliquer. Expliquez-moi, frère, suis-je premier bureau, deuxième bureau? Parce que quand on m'a doté, il se fait que de l'autre côté, on en a arrêté. Si vous êtes en règle, vous le savez. Il voulait aller doter, puis il y a eu accident, puis il est venu d'abord doter chez nous. Donc c'est moi, non! Quand on est en règle avec Dieu, on le sait. Dieu nous rend témoignage et le Saint-Esprit nous rend aussi témoignage. Jonathan, il avait une qualité, mais qui était aussi un défaut. La fidélité. Il était à la fois fidèle à David, mais aussi fidèle à Saül. Il aimait tellement Saül, son père, mais il aimait aussi beaucoup David. Que faire? Il avait le choix entre la sécurité du palais et l'insécurité du maquis. Il avait le choix entre l'élite douilleux du palais et la moquette du maquis. Il avait le choix entre les repas exquis et programmés du palais et l'incertitude de chaque repas dans le maquis. Au maquis, on ne sait pas quand, où et comment on va manger. Mais au palais, on sait. Que faire? Saül ou David? Et toute sa vie, Jonathan avait un cœur partagé. Parfois, pour se donner la conscience tranquille, il rejoignait David. 2 Timothée 2, 11 à 12 nous dit, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous les régnions, lui aussi nous régnera. Combien de fois nous voulons les règnes de Dieu sans la souffrance? Bien aimé, la route qui mène à la gloire passe par la croix. 1 Samuel 20, 42 à 43 nous montre les choix de Jonathan. Il a choisi le confort et la facilité. La Bible a dit un jour, il est venu rejoindre David. David s'est caché dans les champs alors que Saül cherchait à les tuer. Jonathan, par amitié, il a pris des risques à l'insu de son père. Il est venu rejoindre David dans son maquis et lui dit, va en paix. Maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel en disant, que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. Mais écoutez la fin, quelle tristesse. David s'éleva et s'en alla où? Dans son maquis, et Jonathan rentra dans la ville. 1 Samuel 23, 16 à 18 nous montre la même chose. Jonathan, fils de Saül, s'éleva et alla vers David dans la forêt. Ce qui m'étonne, écoutez ce que la Bible dit. Il fortifia sa confiance en Dieu. Jonathan, prédicateur. Courage, David. Dieu est avec toi. Lutte jusqu'au bout. Il te soutient. Écoutez, il ajoute encore. Ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Prophète Jonathan. Il connaît l'avenir. La main de mon père ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. Quelle merveilleuse parole. On aurait pu dire à la fin Amen. Mais le verset 18 dit, ils firent tous deux alliances devant l'Éternel. Et comme autrefois, David resta dans la forêt et Jonathan s'en alla chez lui. Comme pour dire, toi souffres, mais moi je viendrai quand il y aura la gloire. La souffrance, c'est pour toi. Mais quand tu auras la gloire, moi, juste à côté, premier ministre. Non, la Bible dit, si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. C'est le moment de le rejoindre dans le maquis, car bientôt la trompette va sonner, et avec lui, nous serons dans la gloire. Jonathan est le type de chrétien charnel. Ils viennent à l'église. Comme Jonathan, ils sont émotifs. Ils écoutent la parole de Dieu et répondent à l'appel. Ils prennent parfois des décisions même sincères, mais ne vont pas plus loin. Plusieurs décisions s'arrêtent ici au portail. Mais Dieu veut que ça aille plus loin. Alléluia. La Bible a dit, Zachée est descendu de l'arbre. Il a dit, je rendrai tout ce que j'ai pris aux autres. Alléluia. Et il a fait. Quel témoignage. Comment ils ont vu Zachée débarquer très tôt le matin. Monsieur X, je viens te rendre tes histoires. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré quelqu'un. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Oh, nous le chantons souvent, le monde attend de nous un signe de sa gloire. Le plus grand miracle, c'est quand l'ivrogne devient sobre. C'est quand l'impudique devient pur. Alléluia. C'est quand l'agressif, le méchant devient doux et tendre comme un agneau. Et ce miracle, seul Dieu peut le faire par le Saint-Esprit. Comme Jonathan, ces chrétiens, ils sont prêts à tout donner. Remarquez, il a tout donné à David. Son manteau, son arc, son épée. Et eux, ils donnent leur dîme. Régulés dans les dîmes. Dans les offrandes. Ils font l'aumône. Ils aident les pauvres et les indigents. Ils visitent les malades et les prisonniers. Ils nourrissent les affamés et habillent ceux qui sont nus. Toutes ces choses sont bonnes, mais elles sont accessoires. Ce qui est important et essentiel, c'est recevoir Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur et marcher dans sa crainte. Alors, l'accessoire aura de la valeur. Même notre service pour Dieu n'a de la valeur que si nous marchons dans la crainte de son nom. Luc 10, 20, Christ parle à ses disciples, dit, ne vous réjouissez pas parce que les esprits mauvais vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. Il est même dit qu'au dernier jour, on réjouissera plusieurs qui diront, Seigneur, n'est-ce pas qu'en ton nom nous avons fait ceci, n'est-ce pas qu'en ton nom? Il leur dira, allez-vous loin de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Le service ne peut pas remplacer la relation. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas ce que nous faisons pour lui d'abord, c'est ce que nous sommes pour lui. Et ce que nous faisons pour Dieu n'a de la valeur que si nous sommes quelque chose pour lui. Êtes-vous quelqu'un? Êtes-vous quelque chose pour Dieu? Jonathan faisait des dons, mais il devait faire bien plus. Quitter les conforts et aller au matin. Comme Jonathan, ces chrétiens charnels, ils ont un cœur partagé et indécis. Ils sont disputailleurs et aiment argumenter pour justifier leur turpitude. Ils savent dans quelle position ils sont, mais ils aiment de longues explications. Ou cherchent des appuis auprès des serviteurs de Dieu. Combien de fois ils nous piègent, nos serviteurs de Dieu? Frère, qu'est-ce que tu penses de mon problème? Ils aimeraient que tu dises, voilà, puis dira, le frère Roland a dit. Même devant Dieu, ils amèneront ça. Moi, j'aurais voulu vraiment abandonner. Mais c'est le frère Roland. Non, je n'aimerais pas porter une telle responsabilité. Je te dirai, la Bible est dit. Et quand vous ferez ce que la Bible est dit, vous aurez la plus grande joie que le monde ne peut vous donner. Oh, je sais, ce genre de message ne pleut pas quelquefois. J'aurais voulu vous dire, vivez dans la débauche, mais Dieu est bon. J'aurais voulu vous dire, mentez, trichez, vivez dans l'adultère, la polygamie, mais Dieu est bon. J'aurais voulu vous dire, faites de fausses déclarations de douane ou de taxes. Vivez dans la licence, la duplicité, la sorcellerie, les fétiches. Mais Dieu est bon. Et si je le faisais, je ne serais pas serviteur de Dieu. Si je le faisais, je serais en contradiction avec ce que Paul a dit. Paul a dit, si moi-même ou quelqu'un d'autre, ou même un ange, venait vous apporter un autre évangile que celui que vous avez connu, qu'il soit anathème. J'aimerais vous dire, Dieu est contre ce que vous faites, mais j'aimerais aussi ajouter, Dieu vous aime. Plus Jonathan connaissait la volonté de Dieu, plus il devenait responsable. Tout le temps que nous passons, que vous passez ici, vous rend responsable devant Dieu. Et vous savez, le diable dans sa stratégie, il nous fait toujours croire que demain sera le meilleur moment pour prendre la décision. Prends le temps de réfléchir. Et il va encore plus loin. Il grossit à nos yeux. Ce que nous allons perdre. Mais il ne vous montrera jamais ce que vous allez gagner. Alléluia. Quand il vous parle à l'oreille, tu vas perdre. Demande-lui, peux-tu aussi me dire ce que je peux gagner? La Bible dit, Moïse a laissé toute la gloire de l'Égypte
Alléluia. Car il regardait comme au travers de l'invisible. Dieu, donne-nous des gens qui savent voir ce que tu prépares pour eux. Hébreux 3, 12 à 15 nous dit, prenez garde, frères. Ce passage s'adresse à l'Église. Il s'adresse à ceux qui connaissent la parole de Dieu. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps que l'on puisse dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Nous avons lu le passage de l'Apocalypse au début. Christ s'adresse à l'église de Laodicée. Il dit, je connais tes œuvres. Quelle affirmation! Il me connaît, il te connaît, il nous connaît. Il dit, je connais tes œuvres. Tu passes plutôt. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Et pour la première fois dans la Bible, cela m'étonne. Dieu permet même que quelqu'un puisse être froid. Tu puisses être froid ou bouillant, mais pas entre les deux, pas tiède. Ainsi, parce que tu n'es ni froid, ni bouillant. Il dit, je te vomirai. Vous savez, les vomissures, souffrez que j'en parle. Quand c'est sorti, est-ce qu'on a encore le courage de les reprendre? Et Dieu dit, je te vomirai. On ne peut servir un peu Dieu et un peu le diable. On ne peut appartenir un peu à Christ et un peu au monde. On ne peut vivre avec Saül et régner un jour avec David. Jonathan est mort sur les champs de bataille, à côté de celui qui l'a servi. Et David a pleuré. Il a dit, comment les héros sont-ils tombés? Comment Jonathan est-il mort? J'aurais voulu être là pour lui dire, David, Jonathan aimait la gloire et n'aimait pas la souffrance. Laissons-nous te donner. Il est en train de jouer. Laissons Dieu travailler dans nos cœurs. Nous parler, me parler, te parler. Alléluia. Et si à 7 heures, nous avons tous nos yeux fermés, vous voulez dire au Seigneur, je choisis aujourd'hui la souffrance du maquis. J'aimerais régner avec toi, Seigneur.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.